Bonjour à tous et à toutes. Donc, je remercie Jérôme et Philippe Auvergnat qui m'ont associé à cette initiative sur un sujet qui m'intéresse au plus haut point depuis de nombreuses années maintenant et surtout à cause du compagnonnage que j'ai avec Philippe Auvergnat depuis bientôt un quart de siècle. Je dis toujours aux uns et aux autres que ce qui me permet de gagner ma vie, c'est le droit social français ou européen, ce n'est pas le droit du travail africain. Donc, si je me suis intéressé au droit du travail en Afrique, c'est grâce avant tout à Philippe Auvergnat, qui m'a toujours associé aux initiatives ou aux projets qui étaient montés à Bordeaux. Alors, ceci étant dit, je préciserai aussi, et là je parlerai à la suite du professeur Laborde, que j'ai toujours un grand plaisir à retrouver dans ce genre de circonstances. Le professeur Laborde disait tout à l'heure que la structure du droit du travail était la même dans tous les pays du monde. Et lorsque Philippe Auvergnat m'a demandé d'intervenir, je lui ai dit, ben, j'aurais un titre assez provocateur, Le droit du travail africain existe-t-il? Pourquoi ce titre provocateur? Pour plusieurs raisons. Je commencerai par préciser également, parce que on ne le dit jamais assez, que une grande partie de mon activité de recherche se déroule en Amérique latine. Donc, je travaille énormément sur les droits du travail des pays d'Amérique du Sud. Et vous comprendrez pourquoi je tenais à faire cette précision. Mais en reprenant donc l'idée du professeur Laborde, je me situe dans un courant de pensée qui est un peu à contre-courant de ce que l'on entend réellement de la revendication sur une africanité ou un droit africain. Et je tenais à remercier d'ailleurs Monsieur Aubin Mabanza qui est ici présent, puisque c'est lors de sa soutenance de thèse au mois de décembre dernier, que je me suis encore une fois de plus excité à ce sujet, puisqu'il était question d'un droit du travail véritablement africain. Donc, j'ai voulu placer mon intervention, j'ai voulu centrer mon intervention sur cette question qui me paraît, paraît extrêmement importante, puisque le thème du droit du travail africain ne fait l'objet d'aucune discussion réellement. Tout le monde évoque un droit du travail africain ou tout le monde revendique un droit du travail africain sans préciser de quoi il s'agit. Alors, je ne vais pas évidemment épuiser le sujet aujourd'hui, mais j'aurais quelques questions à partager avec vous. La première question, effectivement, c'est alors, sans même aller jusqu'à revenir à ce que c'est que le droit, et je crois qu'il faudrait le faire un jour, il faudrait refaire un travail épistémologique du droit en Afrique. Qu'est-ce que le droit? Parce que tout le monde vous dit, on a du droit en Afrique. Mais c'est quoi le droit en Afrique? Je me rappelle lorsque j'étais étudiant à Libreville, ça fait déjà plus d'une trentaine d'années, un de mes enseignants, décédé maintenant, nous avait demandé un petit travail en disant, ben, allez dans vos différentes langues rechercher l'équivalent de tel ou tel terme. Et le droit, par exemple, c'est un terme qui n'existe pas dans ma langue. Alors, pour autant, cela ne veut pas dire que les normes, qui ne sont pas toujours du droit, n'existent pas. En tout cas, le droit n'existait pas dans ma langue. Et lorsqu'on veut faire un travail historique sur le droit, y compris en Europe, on voit qu'il y a des termes tels que le droit, tels que la loi, tels que la norme qui existent et qui ne recouvrent pas toujours les mêmes significations. Or, du côté africain, il y a une tendance à la globalisation, à considérer tout est du droit, enfin, nous aussi nous avons du droit, la moindre norme que l'on retrouvera sera assimilée à du droit. Alors cette tendance à la globalisation, on la retrouve aussi dans la manière dont nous allons voir l'Afrique. Et c'est par là que je vais d'ailleurs commencer, puisque ma présentation, comme celle du professeur Laborde, autour de est-ce qu'il y a un droit du travail africain ou qu'est-ce que ça peut vouloir dire le droit du travail africain, ma présentation se fera en trois parties. Mais les trois parties, plutôt que de trouver des termes originaux, à chaque partie, j'ai accolé un nom. Alors, le premier nom n'est pas très connu par les juristes, c'est celui de Valentin Yves Moudimbé, qui est pour moi un des plus grands penseurs africains. Valentin Yves Moudimbé est un philosophe. Ma deuxième partie aura pour titre Léopold Sédar Senghor, qui est beaucoup plus connu par la plupart d'entre vous. Et ma troisième partie aura pour titre un auteur inconnu de tous ici, sauf de Philippe Auvergnat, de moi et de lui-même, Aubin Mabanza. Donc voilà mes trois parties. Et vous comprendrez pourquoi Aubin Mabanza apparaît dans cette troisième partie. Aubin Mabanza qui participe avec nous aux travaux aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, pourquoi ai-je voulu parler de Moudimbé? Mais là encore, je remercie Aubin Mabanza et bien d'autres, puisque c'est en assistant, en participant à leur jury de thèse, que cette question m'est apparue importante. C'est grâce à eux que j'ai énormément réfléchi à cette question sur le droit africain. On vous dit le droit africain. Il me semble d'abord, qu'est-ce que le droit africain? À quoi renvoie l'adjectif africain? Lorsque vous consultez la littérature sur notre continent, cette question se pose inévitablement. Le droit africain est-il le droit du continent africain? Si on prend cette approche, le droit africain, c'est le droit marocain, le droit gabonais, le droit ivoirien, le droit sud-africain, le droit éthiopien. Mais on voit tout de suite que le droit africain, ça ne renvoie pas du tout à une dimension géographique. Et c'est pour cela que j'ai sollicité Moudimbé. Moudimbé, il y a une vingtaine d'années, a écrit deux ouvrages que je vous recommande. Malheureusement, ils n'ont pas été traduits en français. Moudimbé a écrit un livre dont le titre est L'invention de l'Afrique et un autre livre qui est L'idée de l'Afrique. Donc, l'Afrique, c'est une construction. Il n'y a pas une essence africaine. Or, lorsque l'on consulte un certain nombre de juristes, on a l'impression, on a le sentiment qu'il y aurait une essence africaine. Je prends un exemple. Un juriste congolais, M. Kangulumba Mbambi, qui écrit ceci. La plupart des lois copiées sur le modèle occidental n'ont pas réussi à s'adapter à la culture juridique africaine. Cela est dû au fait que l'approche occidentale n'embrasse pas les mêmes valeurs que celles des populations de la région où elle a été transplantée. Ce que dit M. Bambi ici, vous le retrouvez sous la plume de nombre d'auteurs s'agissant des droits en Afrique. Donc, il y aurait un droit africain, il y aurait une culture juridique africaine. Et c'est parce que Il y a ce droit africain, c'est parce que il y a cette culture juridique africaine que les droits du travail positif que nous avons souffrent quand même d'ineffectivité, d'inefficacité et tout ce qui s'ensuit. Donc, le problème en Afrique, c'est que nous avons une culture juridique qui ne cadrerait pas avec les droits qui ont été importés. D'ailleurs, le premier titre que j'avais choisi pour mon intervention, c'est les droits africains entre hétéronomie et autonomie. Mais cette vision d'un droit africain, qui d'ailleurs, là j'ai cité un juriste, mais c'est un propos que l'on retrouve souvent chez les sociologues, chez les anthropologues, l'idée que nos droits africains, nos valeurs africaines ne cadrent pas avec les droits importés. Et cette idée sur laquelle je suis extrêmement réservé, parce que la culture juridique africaine, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, puisque lorsque je demande aux uns et aux autres de me donner quelques grandes lignes de cette culture juridique africaine, j'ai souvent du mal. Alors, soit c'est une succession de lieux communs. Vous dites, oui, la culture juridique africaine, elle est orale. Oui, et alors, les Anglais ont une culture aussi orale. Donc, il y a plein de peuples dans le monde qui ont des cultures orales. Africaine. Non, c'est rien du tout. Lorsque cette question est posée, et cela nous ramène toujours à la question de l'Afrique, il y a un collègue sociologue mozambicain qui s'appelle Elísio Macamo, qui a produit un excellent livre aussi, malheureusement non traduit en français. C'est un livre qui est écrit en allemand et dont le titre est Vasiste Africa. Qu'est-ce que l'Afrique? Et où Elisio montre qu'un certain nombre d'institutions que nous retrouvons en Afrique, que nous retrouvons en Afrique, où un certain nombre de représentations que nous avons en Afrique ne sont que la création du colon. C'est-à-dire que ce que nous considérons comme étant typiquement africain n'est, comme l'avait déjà montré un historien, Eric Hobsbawm, qui avait, avec ce livre, L'invention de la tradition, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choses, d'institutions, de normes présentées comme telles, mais qui ont été en fait créées par le colon. C'est souvent le cas de ce qu'on appelle les droits coutumiers. Alors, les droits coutumiers, je vais sortir du droit du travail. Moi, je viens du Gabon. Et au Gabon, il y a eu un président qui s'appelait Léon Ba. Et Léon Ba a été qualifié pompeusement d'ethnologue, d'ethnographe. Et Léon Ba a produit un livre intéressant qui s'appelle Coutumier Fang. Je suis du groupe ethnique Fang. Léon Ba a produit ce livre. Et jusqu'à présent, ce livre est une référence. On le présente effectivement comme étant un travail d'érudition très poussé qui montre une chose que au Gabon, que les populations du Gabon connaissaient et avaient également des règles de droit, et d'ailleurs, c'est ce que Léon Ba expose. Sauf que lorsque vous regardez le livre de Léon Ba, les thèmes qui s'y retrouvent, il y en a 10. Les thèmes du droit font. Il y a la famille, le mariage, le divorce, la filiation, la propriété, la tutelle, la succession, les contrats, la prescription, la responsabilité civile. On a l'impression quand même de revoir un remix du code civil. C'est-à-dire que Léon Ba, alors, de deux choses l'une, où les Fang sont tellement en symbiose, en osmose avec les Français que nous avons exactement les mêmes thèmes, ou alors, ce qui est beaucoup plus vrai, Léon Ba ou d'autres ont essayé de produire une œuvre qui cadre avec la demande qui leur a été faite, en disant, vous avez un droit, montrez-nous votre droit, est-ce que cela correspond au nôtre? Et c'est comme ça qu'on crée une espèce de droit coutumier qui, un siècle plus tard, s'impose à tout le monde. On vous dit, le droit coutumier, c'est cela. Donc, le droit africain, dont il est souvent question, pour moi, il va relever de cette mystique de l'Afrique, de l'unité africaine, puisque la question a été posée tout à l'heure au professeur Laborde sur l'unité. Et bon, il y a une mystique de l'unité en Afrique. Nous sommes tous des Africains. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'en sais pas grand-chose. Alors, je soupçonne que cela renvoie à une question chromatique, puisque les Africains, ce sont ceux qui ont la couleur de peau noire. Et en quoi le fait d'avoir la même couleur de peau va créer une unité juridique? Mais cette vision n'est pas le fait des juristes, c'est-à-dire que nous juristes, nous sommes entraînés dans une culture dans laquelle plus personne ne veut jamais discuter. C'est-à-dire que je passe souvent pour une espèce d'iconoclaste en disant, mais je ne suis pas africain, pourquoi je suis africain? Oui, venant du continent africain, mais être africain, ça veut dire quoi exactement? Premier souci, c'est sur le droit africain. Mais si on arrive au droit du travail, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de Senghor, pourquoi Senghor m'intéresse? Alors, le professeur Laborde le comprendra bien vite, puisqu'il a travaillé sur les. Il a eu recours aux travaux parlementaires de la loi de 1952. Et j'ouvre une parenthèse ici pour dire que Senghor en Afrique, pour des gens de ma génération, a été un monsieur particulièrement décrié. On opposait Senghor, le traître, le laquais des Français, à Césaire, qui était le révolutionnaire. Je rappelle quand même que la départementalisation, ça a été un combat, une demande de Césaire. Senghor a obtenu l'indépendance du Sénégal, mais qu'à cela ne tienne. Senghor, donc le traître, Senghor le laquais, en 52. Quel va être le rôle de Senghor? Le professeur Laborde en a parlé un tout petit peu tout à l'heure en parlant des réticences et même du refus du patronat, enfin, de l'hostilité du patronat français, ou plutôt du patronat français dans les colonies, de la loi de 52. Mais dans les débats de 52, ce qui m'a intéressé, et c'est en cela que s'inscrit ma vision du droit du travail, ce qui rejoint ce que disait le professeur Laborde tout à l'heure, Senghor a une vision universaliste du travail. Alors que, au cours de ces débats, quelqu'un qui est souvent salué par un certain nombre d'anthropologues et d'ethnologues, Maurice Griaule. Griaule est député à l'Assemblée nationale pendant la discussion sur la loi de 52. Senghor l'est également. Et on assiste à une discussion à front renversé. Griaule reprend un argument qu'on entend aujourd'hui, qui est de dire le droit en Afrique, c'est un droit qui doit être adapté aux réalités africaines, qui doit être adapté aux travailleurs africains. Donc, pour Griaule, il est hors de question que l'on applique dans les colonies le code du travail français. Dans les colonies, on doit trouver des normes qui vont s'adapter, y compris d'ailleurs au rythme de vie de ces gens-là, parce qu'ils ne vivent pas vraiment comme nous, parce que les patrons, eux, l'adaptation au niveau de la rémunération, mais Griaule avait en tête, en disant, il fallait respecter leur rythme, j'en passe, et meilleur. Senghor s'inscrit en faux contre ça. L'approche de Senghor est la suivante. Alors, Senghor, qui a été prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Senghor dit, bah, depuis 1946, nous sommes tous des citoyens. Donc, il y a l'égalité. À partir du moment où il y a l'égalité, pourquoi devrait-il y avoir un droit du travail différent pour les Africains? Lorsqu'il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on se faisait arrêter, on ne faisait pas de différence entre les Africains et les autres. Et donc, à partir de là, les normes, les règles doivent être les mêmes pour tous. Mais là, Senghor le dit, Senghor, et c'est pour ça que c'était intéressant tout à l'heure la question sur le travail, ce qu'on appelle souvent l'informel, donc, débat dans lesquels je ne veux jamais m'inscrire, puisque tous les codes du travail des pays d'Afrique francophone de l'Ouest que je connais aujourd'hui, tous ces codes régissent les relations de travail, point final. Il n'y a pas de distinction faite entre informel, pas informel. Et la meilleure des illustrations, c'est que les gens qui sont dans l'informel, ce qu'on oublie un peu trop souvent, les gens qu'on considère comme étant dans l'informel, lorsqu'ils ont un souci, de plus en plus, ils vont devant les tribunaux. Et quand ils vont devant les tribunaux, vous pouvez consulter les jurisprudences de nombreux pays africains. La requalification des contrats de travail, c'est un phénomène qui est assez connu. Pourquoi? Parce que le juge estime que respecter le code du travail et que informel ou pas informel, ce n'est pas le problème du juge. Le problème du juge, c'est l'application du code du travail. Ici, Senghor s'inscrit dans une perspective qui est un droit du travail qui est le même pour tous. Et un droit du travail qui est le même pour tous, cela va au-delà du code du travail français. Puisque si on regarde les relations de travail à l'échelle internationale, et là, il faut relever le rôle des organisations telles que le BIT, par exemple, mais l'idée, c'est autour d'une notion, par exemple, comme le travail décent. Alors, on peut reprocher parfois l'imprécision de cette notion, mais je trouve que le combat ou la promotion du travail décent, c'est quelque chose qui a du sens et que, au-delà des imperfections, c'est un combat que l'on ne doit pas du tout abandonner au motif que cela ne correspondrait pas à nos réalités ou qu'au motif que cela ne correspondrait pas à des valeurs typiquement africaines. Alors, les valeurs typiquement africaines, ce sera mon dernier point, je crois que j'ai encore le temps. Mon dernier point où j'ai évoqué, et ce sera, bon, là je vais faire de la provocation, j'avertis déjà, c'est pour ça que j'ai sollicité Aubin Mabanza. Aubin Mabanza, mais il n'est pas le seul, hein, parce que ma première rencontre avec Philippe Auvergnat dans un jury de thèse, c'était en 1998. Une thèse dirigée par Alain Supiot avec étudiant en fait un Djiboutien, et la thèse de l'étudiant Djiboutien, c'était que dans les pays africains, puisque l'Afrique est toujours générale, dans les pays africains, il y avait un rejet du droit du travail parce qu'il ne correspond pas aux réalités africaines. C'était ça l'idée. Et j'avais dit à Alain Supiot que cette façon ou cette manière de présenter les choses renvoyait à une approche globalisante de l'Afrique et une approche globalisante du droit. Si la question de l'inadaptation des normes m'était posée en droit civil, en droit de la famille, je pourrais signer tout de suite dès demain pour beaucoup de pays africains. C'est-à-dire qu'il y a des matières où cette question se pose réellement. Or, dans ces débats, on a tendance à, on évoque le droit. D'une part, pour moi, d'abord, le droit, ça n'existe pas. On est en train de parler là de droit du travail. Le droit civil, c'est autre chose. Donc, les thématiques ou les difficultés que l'on peut retrouver en droit civil, ce ne sont pas celles que l'on va retrouver en droit du travail. Et le meilleur exemple que je prends, c'est celui du contentieux. Je dis toujours, dans les pays africains que j'étudie, qu'ils soient anglophones ou francophones, et les lusophones également. Le contentieux, l'un des contentieux avec le pénal parfois, mais le contentieux le plus abondant, c'est le contentieux du travail. Ce qui est pour moi une indication, un contentieux, pourquoi les gens vont voir le juge du travail. Parce que s'ils avaient une méfiance à l'égard du droit du travail, s'il y avait un rejet du droit du travail, ils n'iraient jamais voir le juge du travail. Or, mon interprétation, c'est que s'ils vont voir le juge du travail, c'est parce qu'ils se disent qu'avec lui, ils peuvent obtenir gain de cause. Le jour où le monsieur a un problème avec sa femme ou avec son époux, il ne va pas directement voir le juge. Il y a d'autres cadres de résolution de conflits. Parce que justement, en termes de stratégie et en termes d'efficacité, on se dit que le résultat sera plus efficace si on règle ce problème dans un cadre familial ou dans un cadre communautaire plutôt que devant le juge. Mais en droit du travail, si vous n'avez pas été payé pendant 2 mois, ce n'est pas le chef du village que vous allez voir. Vous allez vous foncer directement saisir le juge. En tout cas, vous pouvez vérifier dans la plupart des pays africains la place que le contentieux du travail a numériquement. Mabanza, on n'avait pas pu mener à bout cette discussion sur votre regret, le regret de beaucoup d'autres, que le droit du travail ne soit pas adapté aux réalités africaines. Et donc, avant de venir à Bordeaux virtuellement, il y a 2 semaines, j'ai évoqué ce sujet avec un collègue qui est sociologue. Et alors, il m'a dit ceci, il m'a dit, ben oui, Augustin, c'est un réel problème que le droit n'est pas adapté. Alors, je lui ai dit, ok, mais donne-moi un exemple, 1 ou 2 exemples qui montrent que le droit n'est pas adapté. Il me dit, par exemple, il y a le repos du dimanche. Le repos du dimanche a été arrêté parce que le dimanche est un jour férié pour un jour où on ne travaille pas pour les chrétiens. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté le repos du dimanche. Je lui ai dit, et alors? Il me dit, ah oui, mais et alors, on aurait pu choisir un autre jour. Je lui ai dit, ok, mais allons au bout de cette logique. Je lui ai dit, d'une part, le principe, c'est le repos hebdomadaire. Ce n'est pas le dimanche. Ça peut être le dimanche ou un autre jour. Et je lui ai dit ceci, mais puisque tu veux absolument une africanisation des normes, est-ce que si dans ton droit coutumier, dans tes coutumes, dans tes traditions, il y avait ceci, que le principe du repos hebdomadaire n'existait pas? Parce que bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait un repos hebdomadaire, il faut que dans cette société, il y ait des semaines. Il y a des sociétés où il n'y a pas de semaine. L'Égypte antique, le calendrier égyptien, il n'y avait pas de semaine. Il y avait des mois, il n'y avait pas de semaine. Donc, déjà, penser un repos hebdomadaire, il faut qu'il y ait une semaine. Mais si, en raisonnant par l'absurde, dans la société africaine traditionnelle, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de repos hebdomadaire. Est-ce qu'au nom du respect des traditions africaines, on va dire aux gens, ah ben oui, on respecte les traditions africaines, nous, ici, il n'y aura pas de repos. Autre exemple, sur la rémunération. Je viens du Gabon, un pays où 80% de la population vit en ville. Et là, on dit, ben, le travail, on va le faire comme autrefois, comme on se l'imaginait autrefois, dans les villages, où vous bénéficiez de la production du grand-père ou de qui vous voulez. Et là, en termes de rémunération, ben, vous avez la protection, point final. Qui va accepter aujourd'hui de travailler sans pouvoir avoir accès aux biens de consommation que la société moderne nous offre? Ça, c'est la question que je posais. Et donc, je me suis dit, mais quand on parle de l'africanisation, mais de quoi parle-t-on exactement en droit du travail? C'est-à-dire que ce discours, je peux l'entendre dans d'autres matières, y compris en droit de la sécu. En droit de la sécu, je comprendrais parfaitement ce discours. Mais le droit du travail, et pour cela, il faut quand même revenir à l'origine du droit du travail. Comment naît le droit du travail? Dans quelle société naît le droit du travail? Quelle est la finalité du droit du travail? Il me semble que c'est la protection de la partie la plus faible. Donc, comment peut-on considérer que, alors, soit on essaie de protéger encore plus et je dis bravo, mais si on se contente simplement de dire « ce n'est pas adapté à nos sociétés », je trouve que c'est un discours un peu court. Et la dernière illustration que je voudrais donner, c'est celle du Gabon. En 2011, le gouvernement a décidé, et j'avoue que j'avais applaudi au départ, le gouvernement avait décidé, justement pour adapter le droit à nos réalités, de créer ce qu'ils ont appelé la journée continue. Donc les gens travaillaient, auparavant les gens travaillaient de 7h ou 8h jusqu'à midi, ils s'arrêtaient pendant 1h30 ou 2h, ils reprenaient l'après-midi jusqu'à 17h ou 18h. Et là on a dit journée continue, les gens vont travailler jusqu'à 15h. Pourquoi ? Parce que dans les villages, les gens n'avaient pas une journée entrecoupée ainsi, ils s'arrêtaient rapidement pour manger et ensuite ils rentraient au village. Mais cette vision des choses, elle est très pratique, sauf qu'elle ne correspond à aucune espèce de réalité. Moi qui vous parle, j'ai grandi au Gabon, la vie du village, je la connais autant que faire se peut, puisque j'allais passer mes vacances chez mes grands-parents, mais les vacances, c'était 2 mois. Donc, ce serait une pure escroquerie de ma part que de me présenter comme un rural. Donc, même dans mon enfance, j'ai grandi en ville, j'ai grandi dans un milieu urbain où je me suis habitué à la journée de travail de 8h à midi et de 14h à 17h. Venir changer cela au nom d'un retour aux traditions, c'est se mentir à soi-même, surtout quand le reste ne suit pas. Parce que si vous dites aux gens « on change la journée de travail », il faut que tout le reste suive. Et donc là, le problème n'est pas celui du droit du travail, mais c'est un problème qui est autre. Et c'est ce que j'essayais de dire l'autre fois à Aubin Mamanza. Le problème, et c'est un problème qui est autre, et qui est débattu dans d'autres lieux, c'est celui de l'État africain. C'est-à-dire que ce n'est pas le droit du travail qui pose problème en tant que tel, c'est l'État africain avec ses divers problèmes que je ne vais pas du tout aborder ici, qui est réellement soulève des difficultés. Adapter le droit du travail aux réalités africaines, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à comprendre, ou alors on confond deux choses, et je terminerai là-dessus. On confond l'inadaptation du droit du travail avec son ineffectivité. Or, l'inadaptation et l'ineffectivité, ce sont deux choses différentes. L'ineffectivité du droit du travail, Philippe Auvergnon a dirigé un numéro spécial de la revue du Comparatec. C'est un phénomène que l'on retrouve pas seulement en Afrique, on le retrouve en Europe, on le retrouve en Amérique latine, on le retrouve dans d'autres parties du monde. Voilà ce que je tenais à partager rapidement avec vous.